Bonjour et bienvenue sur Europe et Sentiments. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré dans le cadre de l'événement Podcast Hôtel qui s'est tenu le 24 novembre dernier à Lyon, à Hôtel 71. Avec mes deux invités, Hugo Lereux de l'agence Bulle Média et Wael Sayer, réalisateur de plusieurs documentaires, dont le plus récent « Banlieue », nous avons eu envie de partager notre conviction que de nouveaux récits européens sont possibles, sont réalisables et surtout sont nécessaires. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas naïfs ni utopistes, bien au contraire. Inventer de nouveaux imaginaires européens dans le monde d'aujourd'hui est un acte politique. Merci à Artifarty et à l'association d'Ismara, coproducteur de cette première édition du podcast Hôtel, pour cette invitation. Et merci à Enrique Moreno pour la réalisation. Vous écoutez Europe et Sentiments, épisode hors série, réveiller le désir d'Europe grâce au podcast.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour cet enregistrement en live et en public. C'est un exercice que je ne fais pas très régulièrement, mais que je suis super contente de réaliser aujourd'hui, surtout avec Hugo et Wael. Donc moi je m'appelle Laetitia Chaban, je suis la créatrice effectivement d'Europe et Sentiments, qui est, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, un podcast indépendant. Et à travers des récits intimes et personnels d'Européens et d'Européennes, j'essaye d'interroger ce sentiment d'appartenance à l'Europe et puis aussi notre histoire européenne commune, apprendre à mieux se connaître, interroger un peu toutes ces questions d'identité. Donc évidemment, quand on m'a proposé aujourd'hui d'intervenir pour parler du désir d'Europe, c'était difficile de dire non. Et en même temps, c'était difficile de faire ça toute seule, donc je suis accompagnée de deux acolytes qui eux-mêmes se sont lancés dans ce joyeux sujet de parler d'Europe. Je vais vous laisser vous présenter, donc Hugo Lereux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hugo Lereux, je présente en quelques mots Bulle Média. Bulle Média, c'est une agence de production audio qu'on a lancée en 2018 à Bruxelles, dédiée aux affaires européennes. Concrètement, l'objectif, c'était de percer la bulle européenne pour participer à l'espace public européen. Plus concrètement, ça veut dire que même pour un type comme moi qui s'intéressait à l'actualité européenne, en tout cas qui essayait de s'informer, j'avais pas accès forcément au contenu, je comprenais pas comment ça marchait. Au début, on a dû faire nos preuves, donc on est parti sur commande. Concrètement, on allait vendre des séries de podcasts à des think tanks, à des agences de communication, à des médias. Bon, pour les médias, on a vite compris qu'il n'y avait pas d'argent, donc on a fait quelques partenariats pour avoir de la légitimité. Mais voilà, on a fonctionné sur commande pendant quelques années, puis petit à petit, la légitimité s'est construite et finalement nous a intégrés dans des projets européens qui nous ont permis d'avoir de la visibilité financière et de développer une ligne éditoriale qui va être centrée autour des thèmes tech, écologiques et sujets de société. En parallèle, donc Bulle Média, c'est vraiment l'agence de prod audio. Et en parallèle, on a développé le réseau Europod qui vise à diffuser et à promouvoir les meilleurs contenus européens. Et je m'arrête là, on aura l'occasion d'en reparler ensuite. Vas-y, Wael.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Wael, je ne fais pas de podcast, j'en ai fait. Mais je fais du documentaire depuis quelques années et je me suis emparé du sujet Europe pour éviter que ce sujet soit accaparé par la même typologie de personnes, du mâle blanc dominant du centre-ville. Et l'idée, c'était d'aller chercher cette identité européenne, mais hors du centre-ville et dans les quartiers populaires, et montrer que finalement, même les habitants des quartiers populaires étaient des Européens, parce que moi, je suis un Européen de fait. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, mais j'ai voyagé à travers l'Europe avec l'apparition des low cost aussi énormément avec le train et voilà, moi je me suis questionné, on m'a toujours dit que le sujet européen était trop compliqué pour en parler. J'ai vécu une petite expérience bruxelloise pas traumatisante mais intéressante de ce point de vue là et par volonté de contredire, je me suis dit mais moi aussi je peux parler d'Europe et je peux aller faire parler d'Europe des personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir la parole. Voilà.
Merci beaucoup. Du coup, pour démarrer, vous avez bien compris, Anne-Caroline a très bien introduit le sujet, c'est ambitieux, on ne va pas se mentir, quand on parle de l'Europe, en règle générale, c'est plutôt pas très sexy. Les gens, n'importe quel rédacteur chef, journaliste vous dira que ça fait fuir, que vraiment ça n'intéresse pas les foules, que c'est un sujet plutôt qu'on n'a pas envie de traiter. Donc on est assez lucides là-dessus, je pense tous les trois. Mais pourtant, on s'est quand même dit. Alors je ne sais pas si on est complètement fou, naïf. Idiot, je ne sais pas, vous trouverez les adjectifs pour se lancer quand même dans une telle ou précurseur pour se lancer dans une telle aventure, mais on a une conviction, je pense, qui est partagée tous les trois, c'est que si parler d'Europe et parler à l'échelle européenne, ça peut être assez cool et ça peut même être assez passionnant. Et du coup, pour commencer, j'avais envie qu'on se raconte. Comment on s'est lancé dans cette aventure ? Alors, vous avez commencé un tout petit peu à toucher le sujet, mais comment on se lance dans de la production de contenu autour de l'Europe alors qu'on sait que ça va être difficile à vendre, on sait que ça va être difficile à diffuser, à intéresser. Du coup, pour toi, Hugo, sur la création d'une boîte de production de podcast à l'échelle européenne, pour toi, sur le documentaire, c'est quoi les déclics qui font qu'on se lance quand même ?
Ouais, alors moi, d'abord, avant de prendre vraiment notre exemple sur le sujet sexy des contenus européens, c'est toujours l'éternelle un peu question du média qui va dire « mais il faut que je donne ce que mon public attend ». Mais en fait, ce qu'attend le public, ce n'est pas quelque chose de fixe et d'immobile. C'est-à-dire qu'on est en construction continue. Et ce que vous dites tous les deux, oui, il peut y avoir un côté précurseur. C'est-à-dire en donnant des contenus intéressants, etc., petit à petit, tu fais naître des sujets d'intérêt et t'essayes de percer la bulle informationnelle, CF, algorithme, etc. Voilà, ça c'était juste une réflexion d'ordre général. Sur comment on a voulu aller là-dedans, honnêtement, c'est d'abord un projet, moi, porté par mon frère, Antoine Lheureux, qui a fondé la boîte et qui, lui, a réuni, c'est pas embêté, ses deux centres d'intérêt, qui étaient la radio. Il a été pendant longtemps sur la matinale de Radio Scoop, pendant 2-3 ans, pour ceux qui connaissent, et l'Europe, à la sortie du Collège d'Europe, qui est une formation assez prestigieuse là-dedans. Et la mission de base, j'en ai déjà touché un mot, mais c'est vraiment s'intéresser à l'Union européenne, au-delà de « il y a qu'à Faucon »,« ah oui, l'Europe », les migrants, tout ce qu'on va avoir dans le discours médiatique habituel. Donc, essayer d'aller s'intéresser un peu aux arcanes, aux institutions. C'est quand même de la politique de haut niveau. Ça permet quand même des grandes choses. Donc, on a décidé assez naturellement, en fait, de se renseigner et d'en parler. Presque une mission de service public. On y reviendra, voilà. Et puis, Bulle Média, ça fait suite à d'autres projets européens. Ça a commencé avec Europa Bazar, bon, qui cumulait maximum 500 écoutes par épisode il y a 10 ans. Mais ça s'est fait dans le temps. Le format podcast, il s'est imposé naturellement par une passion pour la voix et la radio. Et puis, honnêtement, on avait aussi anticipé un peu une montée en puissance en 2018 du secteur podcast en Europe à la suite de ce qui se passait aux États-Unis. On a coutume de dire, oui, l'Europe a 5 ans de retard sur les États-Unis côté podcast. Sur les chiffres, sur l'audience, sur même le marché, on est un peu dans cet ordre de grandeur là. Ça peut être assez intéressant pour ceux qui veulent se lancer sur des catégories et tout, d'aller voir ce qui se passe outre-Atlantique, évidemment garder sa patte dans l'application. Et puis dernier point, pourquoi on est allé se mettre vraiment radio, podcast X Europe, ça a l'air bête, mais l'argent, on n'avait pas beaucoup de capital. Ce qui est génial avec le podcast, c'est que tu peux monter une structure avec assez peu. Au début, on a commencé par enregistrer dans des locaux de radio amis. RCF à Bruxelles, et puis on avait accès, ça c'est un petit tips pour ceux qui vont à Bruxelles, tu peux facilement avoir accès au studio du Parlement européen, et quand tu as accès au studio du Parlement européen, bah, tu chopes tous les eurodéputés, les gens qui comptent dans ce monde-là, et encore une fois, ça coûte zéro. Donc voilà, les trois raisons, c'est vraiment Europe, allez voir, podcast, c'est le moment, et en fait, on peut le faire, parce qu'on n'a pas besoin de monter une énorme affaire.
Oui, moi, de mon côté, moi, c'est un peu la double peine parce que je parle d'Europe et de banlieue et de quartier populaire, deux sujets que les médias apprécient. Et voilà, maintenant, mais l'idée, moi, j'ai commencé, c'est en m'intéressant et en naviguant à Bruxelles que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet européen. C'est aussi parce qu'on m'a dit, tu ne peux pas en parler, c'est trop complexe, il faut avoir fait des études. Et j'ai commencé à m'intéresser aussi aux personnes qui y travaillaient. J'ai commencé à travailler sur un sujet dont personne ne parle. Il y a 10 ans, j'ai commencé à écrire des articles sur la dépression dans les organes européennes. Et c'était un sujet qui était hyper intéressant à voir et que je voyais de l'intérieur. Petit à petit, bah, moi, j'ai eu la chance de pouvoir voyager à travers l'Europe et de voir aussi des communs avec d'autres personnes qui habitent, par exemple, en Slovaquie. Et je me suis rendu compte que finalement, j'avais quand même beaucoup de points communs avec une personne, peut-être même plus de points communs, parce que moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, et je me suis rendu compte que j'avais peut-être plus de points communs avec un Slovaque de Bratislava qu'un habitant du 8e arrondissement. Donc, c'est aussi tout ça, d'essayer de trouver une identité commune. Pourquoi j'ai choisi ce sujet aussi, parce que c'est un sujet... Pour toutes ces raisons-là, comment c'est le temps. Le temps, beaucoup de recherches. J'ai écrit ce projet-là. J'ai commencé à l'écrire il y a 10 ans. Je l'ai tourné, le mis en production il y a 4 ans. Et il vient tout juste de sortir. Le film s'appelle Banlieue, avec UE à la fin, comme le petit jeu de mots. Voilà, l'idée, c'était de... Ce documentaire-là, il m'a pris du temps et je suis allé voir une première fois toutes ces personnes-là. Que ce soit en Slovaquie, à Bruxelles, à Athènes ou à Barcelone, il y avait une volonté de se dire, nous ne sommes pas tout seuls, on se ressemble, on a des problématiques communes, mais on ne se parle pas. Et l'idée, c'était vraiment, avec ce documentaire, d'essayer de faire dialoguer toutes ces personnes-là. Et sur un sujet, parler d'Europe, mais de la vraie, du quotidien, et pas forcément de l'institution.
Ouais, moi, je me reconnais tout à fait là-dessus, parce que je pense que si j'ai créé Europe et Sentiments, c'est... Bon, moi, il y a eu le déclic, peut-être qu'il y en a d'autres qui le partagent, mais le Brexit, ça m'a quand même sacrément marqué de me dire, ah ouais, on peut quitter l'Europe, ok. Donc, il y a des gens qui votent pour ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup, à quel moment on a raté quelque chose sur comment on en parle. Et moi, je sais que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une envie et de me renseigner en tout cas davantage et de me rendre compte que sur les sujets sur lesquels j'avais envie d'aller, il n'y avait pas grand-chose d'un point de vue média, mais aussi d'un point de vue universitaire. On en a pas mal parlé avec toi, Walid, mais typiquement sur les banlieues, on a tous les deux fait des recherches dessus. Si vous tapez banlieue et Europe, autant vous dire qu'il y a très 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 peu de littérature sur le sujet, comme quoi ça n'intéresse pas encore des masses. et donc, il y a tout à faire, donc n'hésitez pas à vous y mettre aussi. Pour continuer sur idée aussi de choix de parler de ce sujet, il y a le choix des formats. Alors nous, évidemment, on a mis grâce au podcast, parce que avec Hugo, on partage cette passion de ce que peut apporter la voix. Moi, je suis une grande fan, une grande consommatrice de podcasts, donc je pense que si j'ai choisi ce support, c'était aussi parce que c'est un support qui me parle en tant qu'individu. Mais il y a ce rapport à la proximité que donne et l'intimité qu'on peut créer avec le podcast sur la voix. Mais ouais, toi, tu as fait le choix de la vidéo. Comment c'est arrivé ce choix des formats, justement, pour parler de ce sujet? Quels ont été un peu les critères? Mais quel pont aussi on peut créer entre ces différents formats?
C'est drôle parce que moi, c'est mon deuxième projet de documentaire. Mon premier projet de documentaire, il s'appelait « Mon incroyable 93 ». Je suis parti en voyage, parce que j'utilise le voyage pour parler des quartiers populaires, et je suis parti en voyage pendant 6 mois en Seine-Saint-Denis avec mon sac à dos. Et j'ai commencé à l'écrire. Et en fait, je ne voulais pas faire d'image. Et j'ai pris un micro, j'ai commencé par faire du podcast, de la photo et de l'écrit. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un plafond de verre aussi. Peut-être que lancer un podcast en 2013, c'est peut-être un peu trop tôt, je ne sais pas. Mais... Mais voilà, il y avait ce plafond de verre et en fait, on m'a demandé la vidéo. Donc moi, c'est parce qu'on m'a dit, je ne savais pas filmer, je me suis auto-formé. Je suis réalisateur autodidacte maintenant et en fait, la vidéo, je l'ai choisie aussi parce que ça avait beaucoup plus d'impact pour mon sujet. Mais moi, j'essaye de penser des projets en transmédia pour faire à la fois de l'écrit, pour faire à la fois du podcast si possible. Moi, je ne me mets pas de limite, en fait. C'est le sujet, c'est d'essayer de raconter des histoires, créer un narratif et créer un nouveau narratif sur l'Europe. L'Europe du quotidien, c'est aussi... Voilà, moi, je ne me mets pas de limite. Peut-être que je ferai du podcast, mais la vidéo et le documentaire, maintenant, c'est quelque chose qui est en moi et voilà.
Bah, intéressant, je ne savais pas que tu étais arrivé sur l'audiovisuel parce qu'on te l'avait demandé et que tu débutais sur, que tu avais commencé par l'écrit. Moi, c'est une sursaturation du visuel. Alors, c'est super, hein, ça permet plein de choses de voir, mais on peut arriver sur de la pathologie, même hein, fatigue oculaire ou autre, mais on est voilà, tout le temps devant des écrans, c'est le sens le plus sollicité, mais de très très loin. Donc voilà, c'est faire actionner un autre sens, ça te permet une autre réflexion, ça te permet d'avoir accès à du contenu dans des endroits où bah, tu ne peux pas avoir ton regard fixe sur un écran ou autre, c'est-à-dire cuisine, sport, etc. Et puis c'est un format qui est quand même plus apaisé, c'est-à-dire que ça participe un peu à calmer, je trouve, en tout cas ce que j'écoute moi, à calmer le jeu et à me faire redescendre de phases d'excitation ou autre, mais voilà, on ralentit un peu, ce qui est quand même assez appréciable dans une société où on a l'impression que tout va s'accélérant. Voilà, sur les ponts, bah, entre l'audiovisuel et l'audio, bah, ils sont multiples, hein, dans le nom, quoi. Audiovisuel, évidemment, ça intègre l'audio. Moi, je pense à l'achat de droits. Ça va dans les deux sens. À un moment, je sais que ça faisait fantasmer beaucoup de podcasteurs de se faire acheter des droits par, je sais pas moi, Amazon, des grandes plateformes, qui, elles, y voyaient un intérêt de tester une preuve de concept, de se dire, ah bon, ben, si ça marche là-dessus, ben, nous, on va le porter à l'écran et finalement, on a déjà une garantie de succès. Je crois qu'on en est un peu revenu. Hein. Ça, c'était vraiment la mode il y a un an ou deux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité. Et puis, on en parlait avec Wael et Laetitia là, avant Stoke, l'adaptation de contenu audiovisuel en format podcast. En fait, tu n'as pas tout le temps besoin d'une image. Là, on parlait de quelque chose, bah, service public, c'est ce soir, c'est Wael qui évoquait ça. Je ne savais pas, moi, ça m'arrive de mettre c'est ce soir vraiment en fond, un dimanche soir, voilà, en faisant autre chose. C'est vrai que je fais quand même tourner. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut sauver énergétiquement de la bande passante, ce n'est pas le sujet, mais en fait, voilà, tu as aussi la possibilité d'avoir un truc beaucoup plus léger avec ton téléphone. Tu n'as pas besoin de brancher ta grosse machine et d'avoir accès à ce que tu veux, c'est-à-dire un débat d'idées et un flow. Voilà pour moi.
Moi, je pense aussi, enfin, je ne sais pas si c'est le cas, peut-être que c'est plutôt toi, Wael, qui pourrais me répondre, mais... Moi, je me demande si dans mes invités, qui sont pas des gens qui sont habitués à parler sur du, enfin voilà, qui sont pas, ils ont pas été préparés à parler à des médias, ils sont pas rodés à l'interview. Le podcast, finalement, il fait moins peur aussi parce que c'est pas grave si on est décoiffé, si on est pas maquillé, etc. Là, on va capter que la voix. Et donc moi, il y a des gens où je me dis, peut-être qu'ils se livrent plus entre guillemets moi parce que je leur pose quand même beaucoup de questions personnelles sur leur famille, sur leur vécu, sur etc., qui se livrent plus parce que c'est uniquement du son et qu'on ne les verra pas. Et que du coup, il n'y a pas justement cette question de l'image. Mais ça me fait arriver aussi à l'autre question que j'avais envie de vous poser, c'est justement sur... on revient à ce sujet. L'Europe, c'est un sujet souvent vu comme désincarné, technocratique. C'est un sujet qui peut être... assez désincarné. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel, en tout cas moi, j'essaye vraiment de travailler sur comment on écrit des récits, comment on crée des nouveaux imaginaires. Mais du coup, c'est aussi comment on va chercher ces personnages pour raconter cette histoire européenne. Comment vous arrivez-vous à incarner cette Europe, entre guillemets, à humaniser votre sujet ?
Alors, je rebondis juste là sur ce que tu disais sur l'image, où c'est exactement ça. Sur certains formats, en fait, l'image, ça peut être une distraction. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir la moitié de ta concentration qui va être sur la communication non verbale. Alors, toi, tu veux t'intéresser au fond du sujet. Donc, c'est une chance supplémentaire pour la voix et le podcast. Sur la question d'incarner et humaniser l'Europe, ouais, c'est même un de nos défis en tant qu'Européen. Peut-être, on ne va pas faire de la géopolitique ici, mais quand tu regardes la Chine ou les États-Unis, tu n'as pas forcément envie d'aller dans l'un ou l'autre modèle. Donc nous, on a quelque chose à faire, mais on ne sait pas trop comment. Et oui, on a besoin d'un récit et de faire société comme une nous, à titre plus pratique, vraiment Europod. L'idée, c'est, avant même le sujet, en fait, de pouvoir personnifier le propos, ça peut être aller choisir un personnage historique. Par exemple, nous on a fait une de nos premières séries de fiction sur Angela Merkel. Angela Merkel, c'est la personnalité politique, homme-femme confondue, la plus importante du début du 21e siècle, ou du 3e millénaire si vous voulez, mais européenne. Voilà, ma question à Angela Merkel, le but c'était de suivre une journaliste qui avait une seule question à poser à Angela Merkel le jour de sa dernière conférence de presse. Et finalement, on suivait ses interrogations, sa manière de travailler. Et finalement, c'est une espèce de mise en abîme. OK, on parle d'Angela Merkel, mais en fait, on parle du travail d'une journaliste et de tous les gens qu'elle allait rencontrer dans ce but-là. Donc nous, c'était intégré en fait, dès le script. C'est l'angle qu'on a choisi pour donner la parole. Celles et ceux qui ont vécu sous son mandat, et en fait on en fait partie, hein, même si on n'est pas allemand. Une autre manière de faire, c'est d'aller chercher des formes. Le podcast est une forme en tant que telle. Je suis tombé sur la citation d'un écrivain qui disait en fait, quand on n'a plus d'innovation sur la forme, après seulement on cherche les sujets. Mais le podcast est déjà une forme, et dans le podcast, tu peux arriver sur du bruitage, tu peux arriver sur des formats courts, longs, du montage, de la post-production, et tu vas pouvoir t'amuser là-dessus et faire vivre. On revient à l'expérience et au sens. Ensuite, on vient quand même à une bonne histoire. Alors là, il y a d'autres gens mieux placés que moi. Je te laisserai la parole là-dessus, Well, ensuite. Mais une bonne histoire, c'est le choix du format. C'est-à-dire que tu peux parler de talk, ce qu'on fait un peu aujourd'hui, de fiction, de reportage, de contes pour enfants ou ce qu'on veut. Mais l'idée, c'est d'aller vers. Je suis tombé sur Bruno Patino, le président d'Arte, qui a sorti un livre que je voulais lire qui s'appelle Submersion. Finalement, on a... énormément, on a une infinité maintenant de contenus, qu'ils soient audiovisuels, visuels ou même autres. Et en fait, comment je m'y retrouve là-dedans ? Et c'est encore plus valable pour la jeune génération. Alors, est-ce qu'on en fait partie encore ? Je sais pas, mais sur l'idée de les gens ne s'informent plus vraiment. Et même moi, comment on est informé en fait ? Donc, tu fais des choix presque méta. Tu t'inscris à telle newsletter, tu es sur tel réseau social, dans tel groupe, tes potes, ton milieu. Et tout ça. Va te nourrir. Mais nous, notre but, c'est avec nos séries, etc., avec Europod et tout ce qu'on produit, là, de s'orienter vraiment sur un truc media first, de porter nos propos pour l'année prochaine 2024. C'est comment aller vers ces publics sur des problématiques qui nous semblent fondamentales.
Surtout que là, il va y avoir un gros enjeu et on en a beaucoup parlé, mais vous êtes au courant, j'espère, il y a les élections européennes en 2024. Et donc, ce sujet d'incarner et d'humaniser et de parler de l'Europe, il va être d'autant plus important, il me semble, dans les mois à venir. Je te laisse la parole.
Oui, alors moi, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, c'est que j'essaye de moins, de pas ou peu incarner dans le sens mes projets, dans le sens on me voit, mais moi je suis un passeur en fait. Moi je passe le micro à quelqu'un et à quelqu'un. On me voit juste parce que en fait on m'oblige à me mettre dans mes documentaires, mais parce que on est dans un temps aussi où on doit incarner, où on doit suivre une personne. Et moi je laisse la parole aux personnes. Et dans ce film Banlieue, je parle d'Europe, mais sans vraiment pousser le sujet. Moi, je parle d'Europe quand j'interview un rappeur suédois qui a appris le français en écoutant du rap français et qui parle et qui est un des pionniers du rap suédois, qui est l'un des raps les plus streamés en Europe. Pour moi, il n'y a pas de question, en fait. Il est européen, il a appris le français, il parle 5 langues, il parle espagnol, il parle arabe... c'est un Européen de fait. Et par exemple, en Slovaquie, dans, dans un quartier populaire en Slovaquie qui ressemblerait potentiellement à toutes les verrues architecturales qu'on peut trouver en France, qu'on déteste tous et toutes, bah, sauf pour les fans d'architecture. Mais ils sont fiers de revendiquer cette architecture d'inspiration française. Et voilà, bah, en Slovaquie, ils se revendiquent. Et c'est tous ces mélanges, et c'est eux qui incarnent pour moi le mieux l'Europe, c'est eux qui incarnent et c'est une autre voie. Ils sont pas frontales. Et à chaque fois, je leur demande, mais vous saviez qu'il y avait des élections européennes en juin 2024 ? Je dis, ouais, mais nous, l'Europe, on le vit autrement. Et moi, je n'essaye pas de faire de prosélytisme, mais c'est aussi de se dire, c'est un moment où on peut parler d'Europe, parler des autres, parler plus loin peut-être. Parler peut-être d'élections ou pas, mais en tout cas parler plus loin et parler d'Europe. Voilà, c'est comme ça que je vois l'incarnation, moi, et je suis là juste pour passer le micro.
Et alors, je me permets juste d'ajouter, merci, Wael, ça esprit d'escalier, mais incarner et personnifier, c'est aussi faire en sorte de connecter un peu avec l'actualité. Nous, on sort une série de podcasts, voilà, sur les 50 ans du Once Ese chilien, c'est-à-dire le renversement de Pinochet et ce qui s'est passé avant, entre sa prise de pouvoir et son renversement. En parallèle de la sortie d'une série, bah, y a la publication d'un livre dédié avec les éditions Divergentes. Et finalement, et je pense que ça, c'est vrai dans l'audiovisuel et dans l'audio, le podcast, c'est comment tu arrives à t'inscrire bah voilà, sur des sujets porteurs. Donc là, bah oui, ce sont les élections européennes, clairement. Ça, pour moi, ça aide aussi à incarner, humaniser, puisque c'est proche de moi, en fait, tout simplement.
Bah moi, il y a aussi cette question de redonner de la voix, et c'est ce que tu fais, ce que vous faites, au lieu effectivement de prendre le micro et d'expliquer aux gens, ce qui est quand même souvent le cas de la part des institutions européennes, de vouloir absolument pousser l'Europe en disant « regardez comme c'est beau, regardez comme c'est bien », qui est quand même aujourd'hui le gros récit institutionnel. Enfin, on commence à voir un peu la pub pour les élections européennes. Pour le moment, je ne suis pas méga convaincue, on en parlait. Mais aussi de dire on va donner on va laisser la parole en fait, à des gens qu'on n'interviewe jamais sur l'Europe. Moi, j'ai aussi sorti là récemment un épisode avec une jeune femme de Trappes, et c'était tout le sujet. Elle m'a dit bah, moi, pourquoi tu veux que je me sente européenne quand on vient dans mon quartier, c'est pour parler sécurité ou laïcité, pourquoi tu veux que je m'intéresse à l'Europe? Et effectivement, en fait, c'est des gens, et une fois que j'ai sorti l'épisode la semaine dernière, et elle m'a envoyé un texto en disant en fait, je reviens toujours pas que tu sois venue à Trappes m'interviewer sur le sujet européen, je comprends pas pourquoi tu as voulu faire ça, mais merci. Parce qu'en vrai, ça fait. Du coup, je me dis qu'effectivement, je suis légitime à parler de ce sujet. Et moi, enfin, en tout cas, je pense que dans le choix des personnages de l'incarnation, c'est aussi pas forcément. Du coup, moi, je sais que je réinterroge aussi pas mal ma place dans mes podcasts, de quelle place je veux prendre, etc. Mais en tout cas, de redonner de la voix à des gens qu'on n'entend jamais sur le sujet européen. Comme je vois que le temps avance et que je suis chargée d'être... y avait une question un peu sur la langue, parce que quand on parle de sujet européen, vous vous en doutez, il y a beaucoup de langues en Europe. Et parler du sujet européen en interviewant que des Français, c'est un petit peu dommage, ou en tout cas un petit peu limité. Et en même temps, ça pose la question, moi, quand j'avais démarré Europe et Sentiments, je laissais en partie des interviews en anglais quand je trouvais que, franchement, elle était bien compréhensible, la personne que j'avais interviewée. Et c'est plus cool d'entendre sa voix que de doubler, ou etc. Et puis je me suis rendu compte que les gens arrêtaient pile au moment où ça passait en anglais, et que donc en vrai le doublage était nécessaire. Je sais pas si vous avez rencontré cette, enfin je sais que vous avez rencontré cette problématique, je vais pas faire semblant, mais comment vous avez fait, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Il y avait cet écrivain Umberto Eco qui dit la langue de l'Europe c'est la traduction. Alors pour moi c'est pas la traduction, c'est le doublage, mais effectivement, donc c'est aujourd'hui la façon de le faire, mais effectivement c'est un vrai sujet quand on veut aussi parler de sujets qui dépassent nos frontières, quoi.
Ouais. Là je parle, après je réponds tout de suite. Moi, nous c'est un vrai sujet dès le début, 2018, Bulle Média. En fait, j'étais tombé sur une étude, même j'avais agrégé les différents budgets nationaux dévolus à la culture en Europe, et je les avais comparés, alors c'était des chiffres il y a 4-5 ans, avec ce qui se passe aux États-Unis, en Chine ou dans d'autres blocs. Et clairement, en Europe, on a le plus gros budget dévolu à la culture sous toutes ses formes, hein, pas seulement podcast. Néanmoins, c'est morcelé. C'est morcelé par la langue. Ça allait peut-être un peu moins audiovisuel, tu nous diras, Wael, mais sur l'audio, oui, tu arrives sur le doublage, etc. Mais de fait, je ne peux pas aller écouter un podcast polonais, point. Il n'y a pas de, y n'y a pas de sujet pour moi. Donc, nous, c'est vraiment... voilà, on s'est dit, bon, bah, là, on n'a pas le choix. On veut avoir un contenu européen. On va essayer d'en faire une force. C'est aussi un peu ce qui nous a mis sur la piste des financements européens, parce que, évidemment, c'est identifié par les institutions, ça. Hein, c'est comment faire en sorte que les pays se parlent, en fait. Pour info, nous, ça a été et c'est une de nos forces. Aujourd'hui, on a déjà produit en 8 langues. On a produit des choses en polonais, en hongrois. C'est assez bizarre d'ailleurs, parce qu'en fait, la version finale, tu ne la maîtrises pas. Il faut travailler avec des gens de confiance. Tu ne sais pas ce qui est dit. C'est assez étonnant. Après, c'est aussi une super opportunité d'aller récupérer les meilleurs contenus européen. Là, on a une série dont je vous ai déjà parlé, The Santiago Boys. Voilà, c'est une série qui est faite en anglais à la base. Nous, on la trouve excellente. Elle est portée par Evgeny Morozov, un penseur clé sur le monde technologique. On l'adapte en français parce qu'on estime qu'il y a clairement un réservoir de public. Et nous, on veut lui donner un maximum de visibilité. Donc voilà, c'est vraiment un sujet depuis le début. Et bah là, j'anticipe un peu la question d'après, on y reviendra sur l'IA, etc. Mais voilà, pour Bull Media, ça a été le choix, tout simplement, de diversifier son réseau de collaborateurs. On travaille avec beaucoup de freelance sur ces pays-là. Évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir une équipe avec des gens qui parlent toutes les langues de l'Union. Mais nous, ça nous a servi dans notre développement jusqu'à présent. Et voilà, un truc qui était vraiment une complication, nous, on l'a intégré complètement. Et je réserve la suite de ma réponse pour la question suivante. Je t'en prie, Wael.
Oui, moi, rapidement, dans le documentaire, il y avait français, néerlandais, suédois, slovaque, catalan et grec. Donc, ça fait beaucoup de langues. Mais la plupart des personnages du film ont voulu s'exprimer dans leur langue natale, sauf en Suède et en Slovaquie. Et on me l'a dit, dans 2-3 projections, on m'a dit c'est dommage que ces personnes-là ne soient pas exprimées
dans leur langue
maternelle avec un sous-titre en français. Mais par exemple, le film va sortir sur la RTBF là, en 2024, et bien eux, ils ont décidé de tout doubler en français. Voilà. Donc il y a aussi, en fonction du pays, mais on avait des traducteurs avec nous, j'ai des traducteurs avec moi à chaque fois, mais voilà, il y a une volonté aussi en fonction de l'identité des pays. Peut-être en Catalogne, il y a une identité quand même très forte et tout le monde parlait catalan. Moi, je ne parle pas catalan, on était obligé de le traduire et c'était drôle, c'était une Belge qui traduisait le catalan et moi, je parlais anglais avec l'interviewé. Donc voilà, c'était aussi, la langue, elle est omniprésente. Il y a quand même l'anglais qui est quand même très présent aussi.
Dans un peu frustrant parfois, du coup.
Et l'audiovisuel, il faut sous-titrer. Parfois, non, en Belgique, ils traduisent totalement.
Ouais, moi, je sais qu'il y a eu des fois où j'étais hyper frustrée parce que je parlais anglais avec mon invité parce que c'était la seule langue commune qu'on avait. Et je voyais bien que s'ils parlaient dans leur langue maternelle, ils auraient une finesse de réponse beaucoup plus importante. Et en même temps, oui, malheureusement, je ne parle pas ni hongrois, ni polonais, ni même espagnol en vrai. Donc, c'est assez limité. Mais la bonne nouvelle ou pas à voir, mais en tout cas, c'est qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez vu cette info qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais Spotify est en train de tester un outil d'intelligence artificielle pour permettre aux créateurs de podcasts, de reproduire leur voix dans une langue étrangère. C'est-à-dire que du coup, vous pourrez parler avec votre tonalité de voix. Donc, on s'inspire de comment vous parlez en hongrois, en polonais, en turc, peu importe. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas?
Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou. On savait que ça allait arriver. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite à aller sur le net. Vous avez des tests avec votre voix. Vous donnez 30 secondes de votre voix. On vous fait parler kirghiz, quoi. Ça va très, très vite. Donc voilà, nous, encore une fois, c'est une de nos forces, le fait de pouvoir bosser dans différentes langues. Clairement, ça, on sait qu'on va être directement impacté. Donc on réfléchit à ce que... ce que ça dit pour nous. Je n'ai pas la réponse encore. Peut-être qu'on on réinvitera pour en parler. Mais voilà, sur l'Avoine, on avait fait le choix sur certaines séries. Notre première série exclusive, donc ma question à Angela Merkel, on avait fait le choix de la faire en 4 langues, français, anglais, espagnol, allemand. En fait, ça a été énormément de boulot. Beaucoup, beaucoup de boulot. Et en fait, on a eu des chiffres corrects, bien sur la version française, correct sur la version anglaise et sur Allemagne-Espagne. Presque nul en fait, parce que c'est pas juste la production, c'est qu'ensuite il faut aller diffuser, il faut avoir les partenaires et on retombe dans quelque chose de complètement morcelé. Pour répondre à la question vraiment sur l'IA, les voix, ouais, c'est fou parce que c'est un homme, une femme seul demain, quand je dis demain, c'est, j'en sais rien, dans 3, 5, 10 ans, potentiellement, voilà, pourra servir un discours planétaire avec ses intonations et parler dans les dialectes de tous les habitants. De la planète et peut-être bientôt d'autres, non, déjà de la planète. Ce que je veux dire, c'est que c'est fou, il y a encore beaucoup de questions à régler. Vous savez, je vous parlais de voilà, quand un produit fini, là, une série de podcasts qui est en polonais, il y a un côté un peu perte de contrôle. C'est-à-dire que tu te dis, attends, mais est-ce qu'on parle vraiment de ce qu'on s'était dit ? Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, Laetitia Wael, je vous invite. Dans une de nos productions, sans vous demander votre accord, je vous traduis et je vous envoie aux quatre coins du monde. Bah, si à un moment on parle de sujets qui peuvent heurter des sensibilités, la religion, la politique, ce que vous voulez, potentiellement la traduction sera bonne, mais n'aura pas pris en compte une nuance, etc. Et vous allez vous retrouver avec des menaces de mort. Enfin, j'en sais rien, mais avant d'arriver jusqu'aux menaces de mort, il peut se passer aussi beaucoup de choses. Donc voilà, on ne sait pas trop où ça va aller. On sait que c'est déjà là. Nous, on savait que ce serait là. On ne pensait pas que Spotify... Là, ils ont pris un peu tout le monde de court. Je pense que c'était un peu le but. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas réglé encore le côté juridique et tout, mais que, voilà, ils veulent être le fer de lance de cette nouvelle technologie. Donc, voilà, nous, on est en plein bouillonnement.
Mais t'as raison, c'est au-delà de la langue, c'est aussi... en fait, la langue, c'est une infime partie de toute la culture que ça représente. Ouais. Et donc, de s'adresser à des gens... voilà, il y a effectivement pour être traduit et c'est un gros enjeu, mais il y a aussi qu'en fait on s'adresse pas de la même façon forcément, et c'est ce que tu soulevais, à un Français qu'à un Polonais qui a pas la même culture. Moi je sais que j'avais hyper envie que mes sujets soient repris, donc dans ma saison 1, je pose des questions, c'est faut-il être blanc pour être européen, faut-il être chrétien pour être européen, faut-il, donc voilà, c'est assez sharp comme question, enfin on va droit au but, et je sais que on avait envisagé avec un journaliste polonais qui pose exactement les mêmes questions, mais avec son point de vue, parce qu'en fait, on n'a pas la même histoire européenne. Lui m'a dit, ah mais moi, j'aurais pas posé cette question, mais par contre, j'aurais posé cette question sur le même sujet, comment en fait, avec un même angle. Donc c'est au-delà de la langue, il y a effectivement aussi ce sujet de la culture avec laquelle tu viens, et nous, on vient forcément avec notre petit bagage français.
Ouais, carrément, les références vraiment, et puis tu reviens un peu à la linguistique aussi, comment tu construis tes choses. Donc oui. Les mecs dans l'IA vont te dire, ah oui, mais nous, tous nos modèles sont basés sur la linguistique, oui, mais laquelle, quel choix vous opérez et tout ça. Et ça, c'est vraiment pas neutre. Et puis, moi, un dernier point là-dessus, pareil, hein, je partage mes questionnements, c'est que clairement, l'anglais est la langue dominante pour les podcasts. Je parle de ce côté-ci du monde, hein, on va dire pour l'Occident, parce qu'ils ont de l'avance sur le marché, US et anglais, parce que c'est langue internationale, bref, pour plein de raisons. Et du coup, je me demande, par curiosité, hein, mais si demain tout est ouvert, c'est-à-dire si moi je parle kirghize et finalement je suis expert en mon domaine, je serai toujours un peu bloqué par les références, on vient là-dessus, mais dans quelle mesure ça va venir affecter la prééminence de la langue anglaise dans le secteur audio ? Bon, a priori, les derniers développements vont toujours vers plus de concentration, donc malheureusement, ça pourrait renforcer encore... l'anglais, parce que peut-être les modèles seront mieux nourris pour d'autres raisons que je ne maîtrise pas, ou à l'inverse, ça pourrait aussi éclater et redistribuer un peu les cartes de la provenance des séries de podcasts les plus écoutées. Pareil, ça c'est à suivre comme réflexion.
Il nous reste encore 5 minutes. Et du coup, j'avais une dernière question, mais je vais en profiter parce que la dernière question, c'est que je voulais qu'on partage avec vous aussi des conseils, parce que je sais qu'il y en a certains qui veulent se lancer dans la production de podcasts. Et donc, c'était aussi donner quelques conseils, mais peut-être qu'il y a des questions de la part de la salle. Et si vous avez envie, on avait aussi envie de vous laisser la parole, s'il y en a qui avaient des questions, n'importe quoi.
Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai une question pour Well. Well, il y a une série, il y a de plus en plus effectivement d'adaptations de documentaires télé qui sont adaptés maintenant en podcast. Il y a même une chaîne qui est dédiée qui s'appelle Docurama, je ne sais pas si tu connais, qui reprend des versions audiovisuelles et remonte de façon à faire quelque chose de très digeste en audio. Et ça marche très bien. En tout cas, moi, je suis très friand. Est-ce que toi, c'est des choses que tu envisages sur ton travail ?
Merci pour cette question. On me l'a proposé avant-hier. voilà, on me l'a proposé avant-hier, mais il y a un long travail de remontage aussi et de prendre la matière première que je n'ai pas utilisée. J'ai demandé ces questions de droit à France Télé, parce que c'est aussi une question de droit, comment on les adapte, est-ce qu'il ne faut pas les signer avant. Mais oui, mais moi je trouve de faire du transmédia comme ça, c'est... Ça ouvre beaucoup plus de portes. Donc ouais, ça, moi je l'ai vu avec Brut qui a commencé à faire ça il y a très très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a 4-5 ans. Ils prennent tous leurs sujets, les ont transformés. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai envie, mais je me dis que ça va aider le documentaire et que le podcast va aider et voilà, va aider le sujet.
Une question sur le doublage. Vous avez un peu évoqué notamment le fait de pouvoir faire un podcast en plusieurs langues. Est-ce que vous avez un retour sur le fait de doubler un podcast ? Est-ce qu'on perd des auditeurs quand on double en essayant de garder les deux voix ? Est-ce qu'on peut laisser la voix au début et ensuite la faire disparaître ? Est-ce que vous avez des retours sur des contraintes techniques ? Nous, on essaie de monter un podcast avec une autre langue et on se pose ces questions-là.
Alors moi, j'ai laissé... volontairement, et c'est un choix voilà, et volontairement de laisser la voix de mon invitée parce que je trouve qu'elle raconte aussi quelque chose. Alors souvent je la laisse pas mal, enfin je laisse le début dans la langue dans laquelle il parle, et ensuite effectivement il y a quelqu'un qui vient doubler. Pour le doublage, moi j'ai fait aussi appel à des comédiens. Donc des gens qui vont travailler. Alors le but, c'est pas de reproduire la voix de la personne, parce qu'en fait ça marche pas très bien pour l'avoir testé. Donc c'est garder que eux gardent leur voix, etc., mais qu'ils essayent en tout cas de retransmettre aussi si la personne est très enthousiaste quand elle parle, si elle est plutôt assez en retrait, parce qu'effectivement ça raconte aussi quelque chose. Pour le coup, moi on m'a plutôt reproché quand je faisais pas de doublage, et il y a eu un moment où voilà, je le faisais pas parce que je trouvais je me disais bon, non mais en fait il y a plein de gens qui comprennent l'anglais, ça va très bien se passer. Non, ça c'est pas le cas. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que c'était là que les gens lâchaient. Parce que ça demande plus de concentration, et du coup souvent on écoute du podcast en faisant autre chose, ou en voyageant, ou en marchant, et donc en fait ça demande trop de concentration. Mais voilà, donc ça moi c'est un choix. Je sais qu'il y a des gens qui enlèvent totalement la voix de l'invité pour effectivement garder une espèce de continuité. Voilà, moi j'avais pas du tout envie de le faire, parce que c'est eux qui racontent l'histoire, mais aussi parce que c'est des... Voilà, parce que moi, c'est vraiment des récits de leur histoire assez personnelle et intime, et de leur rapport à leur œuvre. Et la voix, le ton de leur voix fait partie de ce récit.
Oui, nous, on avait fait le même choix. En gros, c'est une histoire de durée. C'est-à-dire que si on avait une captation, je crois qu'on s'était dit 20-30 secondes, on laissait la voix, on mettait un léger décalage, doublage, ensuite fondu. On baisse la voix initiale. Et tu comprends que tu as un effort, tu as le pitch, l'intonation du speaker source, ouais, on va dire, pareil. Mais derrière, tu le comprends, quoi. Et par contre, si tu arrives dans des entretiens fleuves de 5 minutes et tout, bah là, tu évites de garder le bourdonnement, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, c'est le choix qu'on a fait.
D'autres questions ? Oui.
Oui, je voulais dire que donc, Laetitia, donc, dans ton podcast, tu utilises vraiment des formes courtes de questions comme un angle en fait, pour chaque épisode. Et comment tu es arrivée un peu à ce choix de choisir ce type un peu voilà, d'éditorial, comme ça, en mettant une question assez courte ? Est-ce que c'était plus voilà, pour que ce soit plus accessible, ou c'est... Comment tu es arrivée voilà, à cet angle que tu as décidé de traiter, si... Alors... c'est clair.
Ouais, ouais. Alors moi, c'était une question que je me posais. En fait, du coup, je vous ai dit, il y a eu le Brexit qui a été un gros marqueur pour moi sur, en tout cas, tiens, le sujet européen, pourquoi, enfin, qui a commencé un peu à me poser des questions sur, tiens, sujet européen, pourquoi ça me heurte autant que les Anglais aient décidé de voter non, pourquoi, voilà. Et puis après, il y a eu 2019, il y a donc les élections européennes de 2019, où il se trouve que le soir des élections, j'avais un dîner avec pas mal de copains et qu'aucun n'était allé voter. Et là encore, je me suis dit, oh waouh, je suis vraiment... Alors soit c'est moi qui suis vraiment un ovni, soit on, je sais pas, on rate un truc, mais voilà. Et j'ai pas des copains anti-européens. C'est juste qu'ils ont l'impression que l'Europe se fait sans eux et qu'ils n'ont pas tellement besoin d'y participer. Et donc, moi, mon envie, c'était de me dire, OK, pourquoi elle est si lointaine? Et c'est souvent qu'on... Je suis assez d'accord. Hein, moi, la première, je ne trouvais pas les sujets qui m'intéressaient. Et très honnêtement, je suis toujours nulle. Si vous me demandez des choses sur les institutions européennes, je ne suis pas la personne à venir voir. Voilà, je ne comprends pas grand-chose non plus. Ce n'est pas totalement vrai. Je commence à avoir une meilleure idée, mais honnêtement, je ne suis pas la meilleure. Et moi, quand on parle des directives européennes, etc., je ne dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas, ce n'est pas du tout ce que j'avais envie d'écouter et d'entendre. Et donc, les questions par lesquelles j'ai commencé, c'est de me dire... quand j'ai démarré le podcast, je me suis dit, enfin, ce projet, je me suis dit, bon, bah, pourquoi toi, tu te sens européenne? Et après, j'ai fait la liste de tous mes privilèges. C'est que je suis une jeune femme blanche, de parents français, de grands-parents français, qui a fait des études longues, qui a été élevée dans la religion catholique, qui est plutôt, en tout cas, aisée, en tout cas, vient dans, y a, économiquement, ça va. J'ai pu voyager, j'ai fait un programme Erasmus. Je coche toutes les cases de la parfaite petite européenne. Très facile à intégrer comme identité, super facile à intégrer. Et donc, l'idée, c'était de me dire, OK, bah, va voir les gens qui ne te ressemblent pas. Et va leur poser la question, est-ce qu'ils se sentent européens? Est-ce qu'ils ont construit une identité européenne? Et si oui, comment? Par quel biais? Qui leur en a parlé? Etc. Et donc c'est venu comme ça. Et donc j'ai pris toutes mes caractéristiques et je suis partie à la rencontre de gens qui ne faisaient pas partie du parfait petit stéréotype de la parfaite européenne.
Merci pour vos partages. Moi, une question peut-être un peu décalée par rapport à la thématique directement du podcast, mais vous parlez beaucoup d'aspects documentaires et même de recherche. Vous devenez un peu expert, experte sur vos domaines. Comment vous vous imbriquez avec cette casquette de chercheuse, chercheur? Est-ce que vous travaillez avec des personnes spécialisées sur les questions européennes ou est-ce que vous adoptez un point de vue documentaire sur cette imbrication avec la recherche? Merci.
Moi, je fais... Je fais énormément de terrain, donc ça c'est le temps qui compte. Je pense la force des interviews, des sujets que je trouve, c'est parce que je prends énormément de temps à faire des entretiens sans caméra, sans micro, sans rien, et je pense que c'est la clé de du fait que ces personnes se livrent et je rencontre énormément de monde. Par exemple, dans mon documentaire, il y a 7 personnages, je crois. J'en ai filmé 14, c'est complètement absurde pour un documentaire, mais voilà, c'était aussi parce que j'avais envie de continuer à interviewer, à avoir de la matière et cette matière qui me nourrit. Je lis beaucoup, je m'informe beaucoup aussi, j'adore lire, c'est complètement, ça me fait rire parce que j'adore lire le journal slovaque, parce qu'il y a un journal slovaque qui est génial honnêtement, je fais Google Traduction. Hein, mais c'est aussi d'aller voir comment on traite un sujet différemment. Donc moi, quand je vois que ce sujet-là est traité de cette manière-là, je me dis, je vais faire le pas de côté. Je me dis, peut-être qu'il faudrait que je l'oriente de cette manière lorsque je vais faire mes questions. Voilà. Donc, pour le sujet banlieue et Europe, il y a eu une association qui s'appelait Banlieue d'Europe. Leurs archives... c'est 20 ans d'archives sur les quartiers populaires et l'Europe, mais d'un point de vue très culturel, les archives sont à Liège, dans une bibliothèque. On ne sait pas pourquoi, mais il y a un fonds, ils l'ont donné ça. Donc il y a eu quelques chercheurs, quelques sociologues, mais c'est pas un sujet qui est exploré. Donc j'ai l'impression de creuser moi-même et de creuser un sillon qui potentiellement pourra amener des recherches scientifiques peut-être. Et il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, tu fais de la recherche sensible. Voilà. Et voilà, donc je fais de la recherche sensible. C'est beau.
Ah, c'est pas mal. Moi, je sais que je passe beaucoup aussi par la fiction. Il y a énormément de romans. Et dans mes premiers épisodes, je l'ai un peu moins fait après parce que ça demande du temps. Mais je citais des passages de bouquins. mais la plupart du temps qui sont des romans, pas des essais, et qui racontent pas mal de choses, qui te racontent pas mal de choses sur des sujets européens qui effectivement sont peu exploités par la documentation universitaire. Mais la fiction, moi, je sais, a été un outil assez puissant au démarrage. Et après, je suis d'accord avec Wael, c'est en fait aussi, c'est les gens qui t'apprennent. Enfin, plus tu rencontres des gens, plus tu fais des liens. Moi, je sais que sur des interviews qui font une heure et demie, en vrai, je garde 15 minutes de l'interview. Mais les une heure et demie, elles m'ont quand même été utiles parce qu'en fait, ils m'ont dit un truc sur un autre pays. Et du coup, je suis là, mais oui, mais d'ailleurs, la prochaine fois que là, tu vois, j'étais à Bruxelles mardi avec un Polonais qui m'a dit un truc sur l'Italie. Et comme je dois aller à Rome la semaine prochaine pour interviewer un Italien, je ne vais pas garder ça pour l'interview. En revanche, j'étais mais grave, il faut absolument que je pose cette question à l'Italien que je vois. Voilà. Donc tout ça, je suis d'accord, le terrain nourrit énormément cette phase de recherche. Et c'est en rencontrant aussi les gens qu'on apprend pas mal.
Et une réponse d'un non-créateur, pour le coup. Nous, on s'était posé la question au début d'essayer de valoriser les travaux académiques des chercheurs. En fait, c'était pour nous trop compliqué. Il y a peut-être quelque chose à faire, avis aux amateurs. Néanmoins, ce sur quoi on se base, on est dans un travail journalistique, on sait qu'on n'aura pas l'expertise sur le sujet. Par contre, on essaye d'avoir... de travailler les œuvres de nos invités et d'avoir une vraie sélection sur les invités. J'ai parlé déjà d'Evgeny Morozov, mais ça a pu être Alain Damasio, ça a pu être des noms comme ça. Et au-delà des noms, c'est des gens qui ont une vraie expertise. Donc ensuite, le but, c'est de pouvoir modérer, finalement articuler un propos, et derrière, on leur fait confiance pour vraiment nous délivrer ce qu'ils estiment étant le plus pertinent. Deux dernières choses que je voulais ajouter. Sur les institutions européennes, on a un petit podcast qu'on ressort qui s'appelle Explique-moi l'Europe, qui est très apprécié dans les lycées, etc. Qui est en plusieurs langues et qui est vraiment sur ces 2-3 minutes sur le fonctionnement des institutions européennes. C'est assez rigolo. Et puis, je vous fais confiance aussi là, à toute l'audience pour... je vous l'ai dit, là, on arrive vraiment sur un modèle Media First. C'est nouveau pour nous, donc on doit aller chercher, on doit aller vers les gens. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter Europod. Europod, voilà, comme ça s'écrit. Et pour ce que ça veut dire, parce que les 6 prochains mois, les 6 premiers mois de 2024 vont être assez importants. Il y a par exemple un événement qu'on fait avec Artifarty à la Gaîté Lyrique le 14 mars à Paris sur un sujet tech, comment l'Europe peut porter une autre voie.
D'ailleurs, si je peux me permettre une petite question, je sais qu'on n'a pas trop le temps, mais vous avez parlé plusieurs fois des élections européennes. C'est vrai que c'est début juin 2024. Concrètement, en fait, comment vous, en tant que média qui a l'Europe comme terrain de jeu, sujet de prédilection, horizon démocratique peut-être, vous allez aborder cette période. Comment vous allez vous peut-être mobiliser des outils pour peut-être sensibiliser ou intensifier votre travail. Enfin, comment vous appréhendez ces quelques mois qui vont nous mener à des élections qui vont quand même être assez décisives pour l'avenir du continent quand on voit ce qui se passe très récemment aux Pays-Bas, mais avant en Slovaquie. Tu as beaucoup parlé de la Slovaquie, c'est terrible. Robert Fico, c'est affreux de le voir arriver. C'est une des personnes qui avait quand même été mise en cause dans l'assassinat d'Jan Kuciak, un journaliste qui se retrouve maintenant au pouvoir. Voilà, donc c'est des retournements qui sont assez effrayants en Italie, en Suède. Heureusement, pas en Pologne, mais bon. Je ne sais pas si peut-être sur l'actualité des différents mois à venir.
Je suis à fond. je prépare la saison 3 d'Europe et Sentiments, qui est une saison qui sera dédiée du coup aux élections européennes. Notamment parce que c'est ce que je vous ai raconté, ça a été un déclic en 2019 et j'ai lancé le podcast en 2020. Donc c'est le temps que ça m'a pris de maturer l'éditorial, mais ça vient vraiment de là. Donc pour moi, il y avait vraiment quelque chose à faire pour que mes copains aillent voter. Et du coup, cette série-là, moi, il y a deux choses. C'est un, comment parler des élections européennes où on entend dans les médias que c'est une élection mal aimée, de second ordre, qui intéresse peu. C'est comment montrer que il s'y passe, en fait, elle mérite. Il faut qu'on arrête de dire que c'est des élections de second ordre, en fait. Et qu'est-ce qu'elle vient de raconter ? Et donc là, l'idée, donc vous l'avez compris, moi, je ne fais pas de l'actualité à chaud. On parle à la première personne, c'est plutôt du récit personnel, donc on va garder cette identité-là chez Europe et Sentiments. Mais c'est comment, en repartant des élections de 1979 à nos jours, qu'est-ce que viennent raconter. Donc je vais demander à des grands témoins de ces des élections de 79, 84, 89, 80, enfin bref, vous faites tous les vous faites le calcul. Il y en a 9, avec des angles qui viennent éclairer des enjeux qu'on traverse aujourd'hui, qui sont la montée de l'extrême droite, la place de l'écologie, la place des minorités dans les institutions européennes. Enfin voilà, le rapport au fait qu'on vote au suffrage direct et universel, l'abstention dans ces élections, qu'est-ce que ça vient raconter, etc. Et donc voilà, alors il va y avoir plus de personnalités politiques. Donc je disais que j'ai interviewé peu de personnalités, là ça va être moins le cas. Il va y avoir plus de personnalités politiques, mais toujours à la première personne, toujours des récits et des anecdotes pour venir raconter ça. Et ça va être doublé, donc il va y avoir déjà l'écoute de ces épisodes, qui je l'espère vont donner de la matière à réflexion à chacun et chacune. Et par ailleurs, l'idée, et c'est quelque chose que je fais depuis le début chez Europe et Sentiment, c'est de créer des sessions d'écoute suivies de débats. Et donc, pour que chacun aussi puisse prendre la parole, parce qu'encore une fois, je vous disais que moi, l'important, c'est aussi comment on se réapproprie la parole sur ce sujet et comment la parole des citoyens, elle est intéressante sur ce sujet-là. Et donc, là, on est en train de programmer tout un tas d'événements et de rendez-vous. Donc, à Paris, peut-être à Lyon, à Marseille, parce que moi je suis marseillaise, et dans d'autres villes, voilà, pour venir créer aussi de la rencontre avec des gens et de la discussion, parce que moi mon enjeu principal, c'est que les gens rediscutent de ce sujet, se le réapproprient et se disent que ça vaut le coup d'en parler autant que l'écologie, autant que le féminisme, autant que ces sujets qui sont l'avenir, en tout cas pour moi, de notre société.
Nous, on l'attend avec impatience aussi. Non, je suis comme toi. Et voilà, c'est en lien avec les 6 séries qu'on sort les 6 premiers mois de 2024. C'est en lien avec le plus ambitieux plan de communication. Enfin, c'est toute mesure gardée. Mais voilà, on avait ciblé évidemment cette période-là. C'est bien quand ça va dans notre sens aussi.
Ça nous permet d'avoir quelques financements. Je ne vous cache pas qu'on est content.
Accessoirement.
Moi, c'est un total hasard. Donc, mais ça tombe bien, ce hasard. Moi, je commence à reprendre mon bâton de pèlerin et pour faire le tour de France et d'Europe, je fais des projections, débats aussi. L'idée, c'est comme toi, ce que disait Laetitia, c'est que les gens s'approprient ce sujet-là. Et j'aimerais bien retourner sur les lieux où j'ai tourné pour faire des projections, débats aussi. Se faire rencontrer toutes ces personnes qui sont dans le film. J'espère... Enfin, je croise les doigts pour avoir une projection au Parlement européen et que le Parlement puisse inviter tout le monde lors d'une projection et que toutes ces personnes se rencontrent. Je commence le 2 décembre à Tourcoing et à Rennes le 22 décembre. Donc voilà, moi je commence déjà maintenant et essayer de que tout le monde s'approprie ce documentaire qui tourne le plus possible et qu'on parle du sujet européen. Et moi, mon rêve, c'est aussi de se dire que ça commence à peut-être faire... Il y a une petite graine qui a germé dans la tête d'une personne qui a vu et qui potentiellement, je ne sais pas, veut se présenter aux élections européennes. Voilà, c'est possible. Il y a plein de partis. Bon, c'est compliqué. La politique, c'est compliqué. Mais voilà, moi, je vais bosser mon projet avec une association qui s'appelle Get Up de Saint-Denis qui travaille sur ce sujet. Et on discute de ce sujet depuis bientôt 6 ans. C'était 6 ans, non, les dernières élections européennes, c'est 5 ans. Et j'avais c'était financé par un média qui s'appelait Euractiv et le Parlement européen. J'avais animé un événement d'une journée qui s'appelait l'Europe dans le 93. Et avec cette association, on essayait d'essayer de leur dire que le sujet, bon, des petits détails sur le sujet, sur les classements des parcs Natura 2000, sur la migration des oiseaux, voilà, tous ces sujets, petits sujets. Et en fait, il y a plusieurs jeunes, un crew de jeunes qui s'emparent de ce sujet et qui essayent de réfléchir à poser une candidature, peut-être pas sur celle-ci, mais celle d'après. Donc voilà, moi, déjà, si j'arrive à faire ça et faire naître une envie comme ça, moi, c'est réussi.
On va s'arrêter là parce que je crois qu'on a déjà un peu explosé le score du temps. Mais merci beaucoup. Et puis merci beaucoup pour toutes ces questions. Et si vous avez des questions sur comment on crée un podcast, parce qu'on voulait terminer par quelques conseils pour se lancer, n'hésitez pas à venir nous voir. On vous répondra avec plaisir sur ce sujet. Voilà.
Merci
encore.
Merci.
Thank you.